des matins de France Culture en direct de Jérusalem.
Retour à Paris avec vous, Thomas Cluzel, bonjour, et la revue de presse internationale. Faut-il que tout change pour que rien ne change?
Oui, ou comment remplacer un nom par un autre sans rien changer au système en place? Hier, comme attendu, Miguel Díaz-Canel, désigné unique candidat, a donc été élu à la tête de Cuba, mettant ainsi un terme à 60 ans de castrisme. Pour la première fois en un peu plus d'un demi-siècle, le président cubain ne portera pas le nom des Castro, mais celui d'un ingénieur en électronique habillé en civil, représentant de cette nouvelle génération qui n'a pas connu la révolution. Est-ce là pour autant un événement historique? À lire la presse, le sentiment le plus répandu est que rien en réalité ne va changer. C'est le cas en particulier pour le site dissident 14 Medio. Certains espéraient ce changement depuis des années, voire l'ont espéré toute leur vie, mais l'attente a été trop longue, dit-il, et ils ont fini par se lasser. Les passions autour de la succession ont eu le temps de refroidir jusqu'à s'éteindre définitivement face au manque total de surprises offert hier par ce processus organisé pour que rien ne change. Une analyse partagée par le quotidien le plus lu aux États-Unis, USA Today, lequel titre « Nouveau patron, même combat ». Granma, l'organe officiel du Parti communiste cubain, lui-même ne s'en cache pas. À cette nuance près, toutefois, que la continuité est pour lui synonyme de garantie, celle de poursuivre le processus d'émancipation qui nous a conduit, dit-il, jusqu'ici. La marche vers la démocratie ou la chute dans les ténèbres, telle est la question posée dans les colonnes du média d'opposition T24, s'agissant cette fois-ci de la décision du président turc Erdogan d'organiser des élections présidentielles et législatives anticipées le 24 juin prochain, soit 16 mois plus tôt que prévu. Et là encore, l'opinion la plus répandue est qu'il ne faut rien espérer quand le Spiegel prédit que le gagnant est déjà connu. Le magazine Slate note, lui, que les esprits incrédules se plairont à évoquer non seulement des élections anticipées, mais aussi un résultat anticipé, la victoire de Recep Tayyip Erdogan. Dans un laps de temps aussi court, comment les partis d'opposition divisés seraient-ils capables de se mettre d'accord sur un candidat commun? Aujourd'hui, force est de constater qu'Erdogan n'a pas de rival qui menace sa domination. En réalité, son unique problème, remarque le site d'information en ligne Tovima, ce sont les turbulences que traverse l'économie du pays. La monnaie ne cesse de perdre de sa valeur, les déficits se creusent et pour de grands pans de la population, l'insécurité économique est désormais grandissante et c'est d'ailleurs là la raison qui expliquerait donc cette précipitation. C'est parce que l'économie turque est sur la pente descendante, écrit la TAS, qu'il fallait organiser des élections avant, dit-il, que les gens ne s'en rendent compte. Faut-il y voir là encore un événement historique? L'organisation indépendantiste basque ETA devrait officiellement procéder à sa dissolution au début du mois de mai prochain. Cette annonce, remarque ce matin, le temps est passé quasiment inaperçu, alors sans doute autant par désintérêt des Espagnols, dit-il, que par la volonté délibérée de ne pas faire de publicité à ce groupe unanimement qualifié de terroriste en Espagne, mais aussi considéré comme tel par l'Union Européenne et qui reste pour quelques jours encore le dernier de ce type à exister en Europe. D'ores et déjà, le ministre espagnol de l'Intérieur a lui promis que l'ETA n'obtiendrait rien en échange de sa dissolution annoncée. Pas question pour le Parti Populaire de prêter le flanc à toute accusation de faiblesse, que ce soit au Pays Basque comme en Catalogne. Et d'ailleurs, la cérémonie de clôture annoncée par l'ETA devrait se tenir dans le sud-ouest de la France et non en Espagne. En Italie, ce n'est malheureusement pas une première, mais l'affaire commence à faire grand bruit dans la presse, ainsi que le relève le Courrier International. Cette semaine, une coalition d'organisations non gouvernementales a présenté une plainte auprès du parquet de Rome. RWM Italia, la branche italienne d'un producteur d'armement allemand, est accusée d'être complice d'une frappe aérienne mortelle lancée au Yémen par la coalition menée par l'Arabie Saoudite, relate le quotidien Avenir. Et c'était le 8 octobre 2016, ce jour-là, un village du nord-ouest du Yémen était bombardé. L'attaque a provoqué la mort d'une famille de 6 personnes, dont une femme enceinte et 4 enfants. Or, selon le dossier présenté par les organisations à Rome, les bombes utilisées ont été produites par la firme italienne. Ce sont les restes de bombes repérées dans les décombres de la maison qui ont permis en effet de retracer l'origine de l'engin, explique la Repubblica. En l'occurrence, il s'agit de bombes dites intelligentes, téléguidées, dont la marge d'erreur devrait être d'environ 1 mètre. Et pourtant, elles ont détruit une famille de civils bien loin des militaires les plus proches qui, eux, étaient placés à un point de contrôle à plus de 300 mètres de l'impact. Alors la plainte porte sur le fait que l'Italie continue d'exporter des armes aux membres de la coalition militaire dirigée par les Saoudiens en guerre au Yémen, ce qui contrevient à la loi italienne, laquelle interdit les exportations d'armes vers les pays impliqués dans des conflits armés, précise Il Fatto Quotidiano. De son côté, Il Manifesto dénonce l'hypocrisie de l'Allemagne qui, elle, applique strictement l'interdiction des exportations d'armes vers le Yémen, mais uniquement pour les usines situées sur son territoire, ce qui lui permet de laisser ainsi la filiale italienne de l'un de ses groupes d'armement se débrouiller aujourd'hui avec les lois et l'opacité des autorités italiennes. Enfin, s'agissant toujours d'hypocrisie mortifère en Belgique, là, une enquête a été lancée sur l'exportation de substances chimiques vers la Syrie. 24 livraisons au total effectuées par 3 entreprises belges vers la Syrie ou le Liban entre mai 2014 et décembre 2015, rapporte le magazine Knack. Or, depuis juillet 2013, l'exportation de produits chimiques à destination de la Syrie est soumise à une autorisation que les États membres européens n'accordent pas lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que les biens exportés pourraient servir à la répression intérieure ou à la fabrication d'armes chimiques. Alors parmi les produits livrés, on trouve de l'isopropanol, une substance qui intervient en particulier dans la fabrication de produits désinfectants et d'entretien, mais également dans la dernière phase de fabrication du gaz sarin. Interrogées par le journal, les entreprises affirment qu'elles livraient de longue date ce type de composants à des entreprises privées du Moyen-Orient et qu'elles n'avaient pas connaissance de la nouvelle réglementation. Ou faut-il que tout change pour que rien ne change ?